Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être inscrits et connectés à ce webinaire. Alors, on est effectivement très nombreux, ce qui montre à quel point le sujet est important. Il a en plus une très grande actualité. Et effectivement, pour nous apporter des éléments de réponse, des éclairages et des décryptages, nous accueillons Michael Fossa de Schneider Electric. Donc, je vais vous laisser vous présenter tout de suite, et Salim Hassan également, que je laisse se présenter, qui interviendront dans un deuxième temps.
Bonjour à tous, Michael Fossa, je travaille dans le département Corporate Citizenship, citoyenneté d'entreprise, chez Schneider Electric, et je suis en charge du programme Future Ready et en particulier de l'initiative sur l'emploi des seniors.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le directeur des ressources humaines réseau, en charge de la stratégie surtout ce qui concerne le socle social qu'on a pour l'ensemble des McDonald's situés au sein du territoire français. Donc, les 1530 restaurants que nous avons.
Je vous propose de commencer peut-être en vous rappelant dans quel cadre se tiennent ces réflexions et peut-être deux, trois enjeux pour poser le débat et vous laisser ensuite la parole. Alors, peut-être vous rappeler, vous ne le savez peut-être pas, que ces travaux se tiennent dans le cadre de la commission Entreprise dans la société et inclusion, qui a été mise en place par Patrick Martin à son arrivée à la présidence du MEDEF. Cette commission, elle est présidée par Gilles Vermeaux-Desroches de Schneider Electric et Muriel Liénot de Nestlé France, avec une ambition, c'est d'essayer de comprendre, face à une société qui est traversée par de très nombreux défis qu'on connaît tous, d'abord de montrer que les entreprises participent des solutions, elles participent au progrès social par leurs actions, leur engagement en faveur de la cohésion sociale. Elles sont au service de l'emploi, elles sont intégrées dans le territoire. Elles montrent également qu'elles accompagnent les entreprises, qu'on accompagne les entreprises face aux attentes d'une société qu'on dit en pleine mutation. On a mené des travaux très récemment sur l'attractivité des entreprises auprès des jeunes. On travaille sur les nouvelles formes d'engagement, sur les collectifs, le wokisme, la montée de l'individualisme et évidemment sur ce lien, cette articulation entre les générations au sein de l'entreprise dans un contexte d'allongement de la vie professionnelle. Je vais y revenir. Et enfin, cette commission, elle a aussi vocation à montrer comment réconcilier le rôle social et la performance économique, puisque quand on parle d'inclusion, on ne parle pas juste d'inclusion, on parle aussi de la performance économique dans l'entreprise pour contribuer à mettre en place une croissance qui soit sociale, durable et responsable, comme on le dit très très souvent. Alors, peut-être revenir sur quelques enjeux. Pourquoi on pose ce lien intergénérationnel au cœur de ce webinaire? D'abord, c'est vraiment un sujet qui est au cœur des enjeux actuels, qui est au cœur également des négociations en cours des partenaires sociaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la négociation qui vient de débuter. Néanmoins, l'emploi, la négociation sur l'emploi des seniors et sur plus largement un nouveau pacte de la vie au travail a été lancé par le gouvernement avec un document d'orientation qui a été adressé aux partenaires sociaux et qui les invite à négocier sur trois thèmes, l'usure professionnelle, les reconversions professionnelles et l'emploi des seniors, avec un objectif qui est un objectif extrêmement ambitieux, c'est d'atteindre un taux d'emploi des seniors de 65% à l'horizon 2030. Et donc là, on est sur la tranche 60-64 ans. La réforme des retraites a évidemment un impact extrêmement conséquent avec un recul de l'âge de départ à la retraite et donc des générations qui vont se retrouver dans l'entreprise d'une façon beaucoup plus conséquente et beaucoup plus importante qu'avant. Un des chiffres assez intéressants, il me semble, c'est d'avoir en tête que d'ici 10 ans, la moitié de la population active aura 45 ans et plus. Et donc, comment on fait finalement pour faire travailler toutes ces générations ensemble, contribuer au progrès et travailler au sein de l'entreprise? C'est un vrai sujet. Évidemment, vous voyez là les enjeux démographiques. Hein, je vais aller très, très vite là-dessus. Mais évidemment, un vieillissement de la population, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais dans des quantités moindres qu'avant, et surtout une embellie du marché du travail qui fait que les entreprises doivent arriver à fédérer au sein de l'entreprise toutes les composantes de la société active parce que elles doivent aller chercher les compétences là où elles sont, y compris vers celles qui sont peut-être un peu moins proches de l'emploi. Voilà, donc on a tous ces sujets devant nous, ça nous oblige à réfléchir finalement à des nouvelles modalités d'organisation, au rôle du management, à l'équilibre entre ces différents salariés et également avec peut-être un élément complémentaire, c'est que le rapport au travail des actifs en général a changé, mais les attentes vis-à-vis du travail des jeunes générations et des seniors ne sont pas forcément complètement les mêmes, d'abord en raison des choix de vie, mais aussi parce que les attentes des jeunes vis-à-vis du travail, on en parle beaucoup, mais en tout cas, elles s'imposent à l'entreprise en raison notamment de ce nouveau rapport de force, et donc elles obligent aussi les entreprises à réfléchir peut-être beaucoup plus en termes d'individualisation des réponses qu'avant, alors que l'on est dans un collectif de travail qui est évidemment sur des règles collectives. Voilà, je vais pas être tellement plus longue que ça, mais je vais laisser d'abord Michael Fossa nous parler de ce que fait Schneider, hein, avec quelques questions que je vais vous poser, qu'on va vous poser à vous deux d'ailleurs. Hein. Et donc, bah, finalement, comment repenser le lien intergénérationnel? Qu'est-ce que vous faites? Quel retour d'expérience vous avez de vos politiques en entreprise, hein? L'emploi des jeunes, des seniors, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. Néanmoins, ces nouveaux défis nous obligent peut-être à, en tout cas, réfléchir peut-être différemment ou d'une façon beaucoup plus globale. Quel est l'impact sur l'organisation et les collectifs de travail des jeunes générations, notamment? Est-ce qu'il y a un éventuel conflit de valeurs? Est-ce qu'il y a des stéréotypes, d'ailleurs, sur les seniors, notamment de la part des jeunes salariés? Comment tout ça marche dans l'entreprise? Que peuvent apporter les salariés expérimentés à votre entreprise? Et plus globalement, bah, quelles sont vos solutions pour faire coexister, travailler ensemble et recréer un collectif de travail avec plusieurs générations? Salim Assam nous disait qu'il y a 4 générations au sein des entreprises maintenant, c'est tout à fait exact. Et donc finalement, comment on fait? Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Michael pour qu'il nous explique ce que fait Schneider et quelle est la politique qu'il mène.
Merci, merci beaucoup. Je voulais vous présenter ce qu'on a initié chez Schneider Electric depuis quelques années, donc sur cet axe et sur ces actions multigénérationnelles. Mais voilà, on est une entreprise française qui est le leader global de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels. Et peut-être pour commencer sur l'aspect philosophie, parce que nous pensons chez Schneider que jeunes et moins jeunes ne s'opposent pas. Alors, on a la réelle conviction que tous les salariés sont des talents et que donc ça vaut aussi bien pour les jeunes que pour les seniors, et que justement le fait de vivre ensemble, de se connaître, et on va voir que le vivre ensemble est déjà une réalité chez Schneider, rend notre force de travail plus engagée, plus productive et plus innovante, peut-être en partie grâce à ces frictions, parfois tensions, entre les différentes générations. Alors, chez nous, on considère qu'il y a 5 générations au niveau global. Là, je fais une présentation globale de Schneider. On est présent dans 110 pays. Pour la France, on parlerait plutôt de 4 générations qui travaillent ensemble. Et l'idée, c'est de favoriser le développement de carrière tout au long de la vie. En tout cas, c'est notre engagement. Et un de ces moyens de développer, c'est l'échange de connaissances notamment entre générations. Ces deux sujets se retrouvent dans deux de nos six engagements développement durable. L'un porte sur créer l'égalité des chances, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir offrir les mêmes opportunités à tous en tout lieu. Et un est spécifique sur mobiliser les énergies de toutes les générations. Donc, je pense que c'est assez explicite comme engagement et ça montre notre préoccupation du sujet. Quant au programme que j'ai l'honneur de diriger, l'idée, c'est vraiment que l'entreprise puisse s'engager à accompagner chacun dans la construction de son avenir désirable à moyen, long terme, quelle que soit la génération, et d'offrir donc des opportunités équitables à tous et en tout lieu géographique. Et c'est aussi un constat là, qui est plus macro et global, hein, il ne s'applique pas qu'en France. On a des millions de postes qui ne sont pas pourvus et cette situation va tendre à s'exacerber au niveau mondial, alors que dans le même temps, des millions de personnes sont exclues du marché de l'emploi et de la formation. Et on se dit qu'il y a sans doute possibilité de contribuer à résoudre un des problèmes si on s'attaque à l'autre. Et c'est l'objet du programme que je gère chez Schneider. Si on passe sur les actions pour la jeunesse, j'ai essayé de synthétiser ou d'illustrer avec quelques exemples ce que sur la gauche nous faisons pour notre propre force de travail, notre propre main-d'œuvre, et sur la partie droite qui est destinée à l'écosystème, à l'extérieur de Schneider Electric. Donc, on a un objectif groupe de doubler le nombre d'opportunités, alors que ce soit stage, alternance, emploi pour les jeunes, d'ici entre 2022 et 2025. Et c'est un objectif qu'on est en passe de réaliser, ou en tout cas dans lequel on est bien engagé pour y réussir. On passe par des relations fortes avec les écoles, l'université, sur l'offre de formation et d'opportunités de stage. On a, à titre d'exemple, pour la France, hein, vous avez en bas l'exemple français, c'est écrit gris clair sur gris un peu moins clair, donc c'est pas très lisible. On a sur une population en France de 15 000 salariés, à ces 15 000 salariés s'ajoutent 1 000 alternants chez Schneider, ce qui est une proportion importante, et c'était un véritable choix et engagement qu'on a pu faire il y a de ça quelques années, et ce sur les différents niveaux d'éducation. On a par exemple 150 de niveau 4 et 5, et on a également des engagements sur les stagiaires et un partenariat fort avec de nombreuses écoles de tous niveaux. Là, c'est HEC qui est mis en avant, mais on a régionalement, localement, tout type de partenariat. Au niveau du groupe, et plutôt pour l'extérieur de Schneider Electric, on s'est engagé à former 1 million de personnes, pour être très clair, à 90% jeunes, dans les métiers de la gestion de l'énergie. Donc, pas nos métiers, mais les métiers de la gestion de l'énergie, pareil, entre 2022 et 2025. La possibilité donc d'offrir des véritables parcours de formation. On a, pour ce qui concerne la France, l'école Schneider Electric, qui d'ailleurs tendra à se développer aussi à l'étranger, un écosystème d'associations, de collectifs. Et je veux citer ici le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive, pour adresser ce sujet de l'insertion professionnelle de la jeunesse. Maintenant, je souhaitais parler des seniors et vous dire déjà que ça ne s'oppose pas du tout, et je vais revenir en partie sur la raison pour laquelle ça ne s'oppose pas. On ne remplace pas les seniors ou on ne fait pas sortir les seniors de notre force de travail pour les remplacer par des jeunes et offrir plus d'opportunités aux jeunes. On a besoin des deux. Un, parce que on l'a évoqué un peu rapidement, mais nous vivons dans un monde vieillissant. La réalité française est la réalité mondiale, à quelques exceptions près. On peut citer l'Inde et une bonne partie de l'Afrique, mais l'ensemble du monde est vieillissant. On a un doublement entre 2020 et 2050 des personnes de plus de 60 ans qui vont représenter 2 milliards d'individus. C'est une réalité qu'on retrouve chez Schneider, alors de façon variable entre les pays. Vous disiez, dans 10 ans, en France, on aura plus de la moitié de la population qui aura plus de 45 ans. C'est déjà une réalité chez Schneider. Plus de la moitié de nos salariés en France ont plus de 45 ans. Mais à l'échelle globale, cela se retrouve. Et on estime qu'on a à peu près entre un cinquième et un quart de nos salariés qui vont partir dans la dizaine d'années qui vient, ce qui est une proportion énorme et ce qui pose de gros problèmes en termes de gestion des compétences et de l'expertise notamment. Ce programme senior qui est global, il n'est pas lié à la réforme des retraites en France, etc. C'est un mouvement qu'on a engagé il y a quelques années déjà. Une des raisons, ça a été de voir que dans nos enquêtes de satisfaction, on pense chaque année, comme beaucoup de grands groupes, c'était la portion de la population, et comme on a vu, elle est significative en termes de volume, qui était la moins engagée. Et donc, on s'est interrogé sur les raisons de ce moindre engagement et comment on pouvait l'adresser. On s'est aussi lancé dans ce programme parce que nous allons manquer de talents. C'est une réalité statistique, démographique. Nous allons manquer de talents. Une étude de Korn Ferry indique qu'en 2030, on manquera dans le monde de 85 millions de travailleurs, donc clairement des postes non pourvus. Et on estime que chaque poste non pourvu, c'est 100 000 dollars ou euros, c'est très proche maintenant, de chiffre d'affaires qui ne sont pas réalisés. Et on a déjà des pays qui sont très directement confrontés à cette réalité. On peut citer l'Allemagne ou le Japon, par exemple, mais on pense que ça préfigure ce que beaucoup d'économies vont connaître dans les prochaines années. La vision que nous avons sur le sujet, c'est une vision conjointe entre les équipes Corporate Citizenship, citoyenneté d'entreprise que je représente, et la fonction ressources humaines, puisque beaucoup de ces sujets sont liés à des sujets RH. Notre intention stratégique, c'est d'offrir des opportunités équitables pour tous, utiliser le plein potentiel d'une partie importante de notre population et conserver l'expertise, qui est un enjeu business critique au sein de Schneider Electric, malgré les départs que, à un moment ou à un autre, nous connaîtrons. L'approche, c'est de pouvoir fonder ça sur des plans de carrière solides, et on voit que c'est moins le cas pour la population senior, ou c'était moins le cas jusqu'à présent. Reconnaître, il y a aussi un grand besoin, envie, désir de reconnaissance de ces salariés, et d'utiliser leur expertise, leur expérience, leur sagesse aussi, parfois en partie, pour accueillir et accompagner des plus jeunes qui sont amenés à nous rejoindre, eux aussi massivement, on l'a vu sur le slide précédent. Donc, c'est un programme qui a démarré dans ses ambitions, dans son cadre en 2021. On a expérimenté quelques idées, testé certaines initiatives à partir de 2022 avec 12 pays ou entités pilotes. Et puis, depuis 2023, on est sur un déploiement globale ou mondiale par vague. Pour l'instant, on peut parler de la France, la zone germanique, l'Inde, la Chine et l'Amérique du Nord qui ont déployé le programme. Et pour 2024, l'agenda est chargé puisque le reste du monde sera déployé et on garde 2025 pour approfondir dans chacun de ces pays la mise en œuvre de ce programme. Un élément important sur le sujet, c'est l'état d'esprit, les stéréotypes, on en a parlé, et on a voulu incarner ça par des quatre profils illustratifs, ne serait-ce que pour se dire, alors c'est écrit en un peu petit, qu'il n'y a pas que le senior qui attend sa retraite, ce qui est un des cas de figure et on n'a aucun problème avec ça, mais on pense moins naturellement au senior qui souhaite accélérer sa carrière, celui qui souhaite transmettre ou celui qui souhaite, celle ou celui, hein, bien sûr, qui souhaite continuer à un même niveau dans l'organisation et à performer à ce niveau-là, pas nécessairement dans le même job. Et donc, pour changer un peu la façon dont on voyait cette population, on a développé ces personas qui permettent d'incarner des aspirations différentes. Tout ça est suivi par un indicateur de déploiement. Et il y a un élément qu'on mesure qui est très important pour nous, c'est est-ce que les personnes considérées comme seniors ont eu une discussion sur leur carrière et quelle était la qualité de cette discussion. Donc là, on a une enquête spécifique et on a un bon retour sur ça puisque plus de 45 000 salariés sur les 150 000 de Schneider y ont répondu cette année. Et on a développé une boîte à outils globale dans laquelle les pays peuvent piocher et l'enrichir eux-mêmes par leur pratique sur des formations pour les salariés et les managers sur rendre cette conversation de carrière pertinente et pouvoir apporter des bonnes pratiques sur la reconnaissance, la flexibilité, le mentorat, le transfert de compétences avec une méthodologie particulière et d'autres sujets. Maintenant, je voulais en venir à la traduction française de ce programme. Donc, clairement, ce qui a été initié et maintenant déployé en France dans le cadre de ce programme. Donc, vous voyez, on a gardé cette approche des personas, de celui qui souhaite continuer, celui qui souhaite transmettre, celui qui souhaite accélérer, pour indiquer des initiatives qui sont communes ou des dispositifs qui sont communs à l'ensemble de ces personas, typiquement la prévention et les bilans de santé, la situation d'aidance, qui est une situation bien connue de cette catégorie d'âge, et d'autres qui sont spécifiques à chacun d'entre eux. Donc, je peux en citer quelques-uns pour la personne qui souhaite transmettre, être détachée dans une association, une start-up ou une école, la possibilité ceux qui souhaitent préparer une autre étape de leur vie personnelle et professionnelle de se lancer dans l'entrepreneuriat par l'essaimage. D'autres qui souhaitent accélérer la possibilité d'être accompagnés par un mentor interne ou un coach externe ou de rejoindre le programme d'expertise qu'on appelle Electrifier chez nous. Donc voilà, on a pour chacun de ces personas des types de dispositifs qui vont correspondre à leurs aspirations, étant entendu que le but n'est pas de mettre les gens dans d'autres cases. On peut choisir et être un peu de ces différents personas, mais l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas les seniors et leurs aspirations, il y a des réalités et des aspirations différentes en fonction des individus, que la première chose, c'est de les écouter, notamment à travers ces conversations de carrière. Et puis, je crois pour finir, et j'en aurais terminé là, que il y a il y avait une question particulière sur l'observatoire, pardon, de l'emploi des seniors. Alors là, il manque un bout du slide avec les différents items. Ah bah voilà, c'était une animation qui sont traités dans cet observatoire qui a été initié, cet espace d'échange et de dialogue pour discuter de l'accès à l'emploi, des dynamiques de développement professionnel et de la spécificité de cette partie de la population, la reconnaissance, les aspects prévention santé. Alors, pour être honnête, c'est un sujet qu'on avait peu vu au niveau global. On avait peu pensé à cet aspect santé et le terrain, je dirais. Les pays nous ont dit oui, c'est une préoccupation forte qui remonte quand on interroge les seniors sur ce à quoi ils aspirent ou ce qu'ils souhaitent voir comme dispositif et les aspects d'engagement.
Ce que je retiens en fait de votre présentation, c'est que finalement, au sein des entreprises, on ne cherche pas à gommer les différences qu'on peut voir apparaître entre les jeunes et les moins jeunes, mais plutôt à utiliser et à mettre en avant les compétences de chacun au service de l'autre, en fait. On voit, vous allez chercher des jeunes avant leur entrée dans l'entreprise pour qu'ils puissent peut-être s'adapter en amont à la politique de l'entreprise et être prêts dès le début. Et ensuite, les moins jeunes, leur proposez d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur pour garder une certaine souplesse et une adaptabilité qu'on peut peut-être perdre au fil des années, surtout si on reste longtemps au sein d'une même structure. On a une première question. Comment mesurez-vous l'engagement de vos salariés seniors?
Alors, dans l'enquête annuelle, qui est bien sûr anonyme, hein, ça permet de catégoriser les personnes suivant leur entité, hommes-femmes, leur classe d'âge, etc. Et donc, on a le taux d'engagement consolidé pour les différentes tranches d'âge. Voilà. Donc, on voit la différence et ce décrochage entre 50 et 60, pour faire simple. Ça remonte très légèrement après, ça reste en dessous de la moyenne de l'entreprise. Alors, je pense, une question de pouvoir offrir différentes opportunités et modèles de transmission et d'échange avec la jeunesse ou avec l'extérieur, hein, de manière générale. Donc, je vais peut-être pas tout lister, mais on a des missions de courte durée. Donc, chaque salarié peut dédier 20 heures chaque année à ce type d'engagement. On a le mécénat de compétences de longue durée, soit 6 mois durant sa carrière, soit 2 ans avant sa retraite. On a donc la possibilité d'être tuteur, hein, au sein de, on le disait, il y a 1000 alternants, donc il y a 1000 tuteurs aussi parmi les salariés Schneider. On a, entre autres choses, la possibilité également d'être mentor, que ce soit en interne ou en externe. Donc, je crois beaucoup à la possibilité d'offrir différents types d'engagement possible et que pour les managers, ils soient entendus et clairs. Ça fait partie des objectifs de l'entreprise. Je mentionne là en conclusion, mais c'était aussi mon mot de début. On se considère comme une entreprise à impact on souhaite que les managers, la direction de manière générale, soient engagés dans cette démarche et par conséquent en tiennent compte dans l'évaluation des priorités et des engagements des salariés.
Moi, j'avais une petite question en vous entendant. Tout à l'heure, vous avez présenté le fait de favoriser le développement de carrière tout au long de la vie, mais il m'a semblé que c'était plus côté senior, ou est-ce que vous l'envisagez sur l'ensemble des cohortes des 4-5 générations que vous avez dans l'entreprise? Parce que, évidemment, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est que pour allonger, pour favoriser l'allongement de la vie professionnelle, et notamment en bonne santé engagée dans l'entreprise, il faut finalement s'en préoccuper très tôt, pas à 55 ans, mais bien avant, bien avant. Et donc, finalement, est-ce que ce parcours global s'adresse à tous vos publics d'une façon différente, parce que j'ai compris que vous aviez une boîte à outils assez large aussi, ou est-ce que vous séquencez un petit peu les politiques quand même en fonction d'âge?
Alors, c'est une question complexe et de fait, on est amené à envisager les choses un petit peu différemment. Ça, c'est un peu un retour d'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Un, on s'est rendu compte, comme dans beaucoup d'endroits, que la population senior avait moins accès aux formations et en tout cas était moins utilisée moins en tout cas ces dispositifs et donc c'est pour ça qu'on a voulu un focus particulier et sur le plan de la carrière par exemple on a une formation un workshop de 2 jours sur mes forces ce que je dois travailler quel est mon objectif professionnel et beaucoup nous ont dit ah mais j'aurais adorer l'avoir à chacune de mes mobilités ou bien plutôt dans ma carrière. Donc, c'est quelque chose auquel on songe aujourd'hui, mais à la base, c'était pour adresser un écart en disant bah, cette population est moins formée ou se forme moins que les autres, et donc on doit spécifiquement adresser ce point-là. Et puis, on avait un peu la même approche pour. Bah, les jeunes qui arrivent, qui ont beaucoup de choses à apprendre sur l'entreprise, comment ça fonctionne, nos produits, etc. Donc, on avait un focus particulier. Et effectivement, et ben, quelque part, on est en train de remonter un peu avant les seniors pour dire ben, il y a des choses qui se jouent avant et on doit l'adresser aussi, et d'aller un peu plus loin sur la formation après les premières années dans l'entreprise. Donc, je pense qu'on n'y est pas tout à fait. On n'a pas encore une offre spécifique à chacune des générations, mais les retours qu'on a nous amènent à aller dans cette direction.
Merci beaucoup. Je vous propose de donner la parole à Salim Hassan, DRH donc, du réseau McDo France. Et je crois que chez McDo, le slogan, c'est Venez comme vous êtes.
Tout à fait. Alors, il y a 2 choses déjà. Merci de me donner l'opportunité déjà de partager notre expérience. Je vais un peu vous surprendre, mais chez McDonald's, on a aussi une autre règle, c'est qu'on ne fait plus de présentation. On a un PDG qui est arrivé, qui nous a sorti, si vous avez rien à dire, faites un PowerPoint, au moins ça amusera la galerie. Donc, depuis ce jour, les PowerPoints sont un peu bannis de notre modèle de fonctionnement. Je suis navré, je préférerais plutôt synthétiser les choses de manière beaucoup plus à notre image.
Michael, surtout, ne le prenez pas pour vous, hein.
Non, sans jugement aucun, c'est, voilà, chaque entreprise a son mode de fonctionnement. Mais quand on parle de McDonald's, en fait, ça fait 45 ans qu'on est en France. En septembre cette année, nous avons fêté nos 45 ans. Et McDonald's, c'est avant tout 1530 restaurants, comme je vous disais, 1547 exactement, répartis sur tout le territoire. Avec une pyramide des âges qui est un peu différente de ce que vous voyez chez Schneider, c'est-à-dire qu'on a 81% de nos salariés qui ont moins de 30 ans. Et quand on regarde un peu cette population, 55% de nos équipes qui nous rejoignent sont des primo-accédants à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils découvrent ce que c'est que le monde professionnel en nous rejoignant. Et puis d'autre part, nous avons quasiment 6 000 personnes qui sont dans la catégorie senior, qui sont chez nous et qui évoluent depuis pas mal de temps au sein de l'entreprise. Donc la question d'intégration, en fait, l'enjeu que nous avons à chaque fois, c'est comment arriver à faire cohabiter ces différentes générations qui viennent chez nous pour que tout le monde puisse parler le langage commun. Comment arriver à avoir un dictionnaire commun pour que tout le monde puisse se comprendre et que la valeur famille qui nous est chère, qui est nous devenons meilleurs ensemble, puisse être une réalité dans notre quotidien et dans nos restaurants. Ça, c'est le vrai enjeu que nous avions et c'est une équation complexe que nous gérons. Le maillage territorial fait aussi qu'en fonction des territoires, ben, on a cette pyramide, même si au niveau national, elle est là. Au niveau local, parfois, c'est 50% de personnes seniors qui travaillent dans le restaurant. Nous avons nous commençons à avoir beaucoup de nos équipes qui commencent à partir en retraite. Et donc, la transmission du savoir, la continuité, l'ADN, la culture d'entreprise, comment la faire évoluer. Et là, c'est les restaurants. Et puis, nous avons aussi un siège social situé à Guyancourt, avec des sièges régionaux. Et quand on prend l'ensemble des populations qui travaillent au siège, on a 500 personnes, grosso modo, qui travaillent. Et 30% de ces personnes, de ces effectifs, sont plutôt seniors. Et là aussi, la complexité d'arriver à créer le lien entre les équipes qui sont très jeunes en restaurant, les équipes sièges qui sont plutôt au support et que tout le monde puisse fonctionner. Donc ça, c'est l'équation sur laquelle on a dû se poser. Et puis l'image que nous véhiculons, un peu l'image employeur que nous avons, qui est très axée jeune, parce que c'est ce que rencontrent nos clients, qui sont aussi parfois, qui ont travaillé chez nous, arriver aussi à faire comprendre que chez McDo, il peut y avoir des opportunités pour tout le monde et tout le monde peut se retrouver parce que ce que nous proposons, ce que nous offrons, que ce soit les métiers, les postes, l'adaptation que nous avons fait, on peut répondre à toutes les attentes et on peut arriver à un moment donné à permettre à tout un chacun, en fonction de ce qu'il recherche, en fonction du temps qu'il a, de trouver un job, un métier de manager, un métier de directeur, ou une nouvelle activité, hein. On parle de transformation, beaucoup d'entreprises se sont séparées récemment de personnel et de transformation professionnelle, mais d'arriver à offrir des opportunités. Donc un peu voilà déjà le socle de départ. Et il y a 10 ans de cela, nous avons commencé à avoir cette problématique générationnelle qui s'est posée. À l'époque d'ailleurs, Hubert Mongon, que certains d'entre vous connaissent très bien au niveau du MEDEF, était notre vice-président RH et a commencé à nous poser la question. À se poser la question de comment éduquer nos franchisés, parce que McDonald's, c'est aussi ça, c'est un système de franchise, et les vrais patrons, ce sont ces franchisés qui sont des entrepreneurs indépendants qui, localement, font fonctionner leur business unit, font fonctionner leur entreprise. Comment arriver à les éduquer pour que cette question de génération, elle ne se pose pas, mais elle soit intégrée dans le quotidien et dans le management au quotidien. Et deux actions ont été mises en œuvre depuis ce temps-là, qui sont aujourd'hui, qui représentent quelque part le socle non seulement de nos politiques RH, mais quelque part de nos politiques en matière d'éducation, de formation, sur l'aspect managérial. Le premier facteur, ça a été toute la compréhension de cette génération avec des conférences, des formations sur la génération Y à l'époque. Là, on est plutôt sur Z et Alpha. Et puis le deuxième item sur lequel on a commencé à construire, c'est un programme qui est simple, qui s'appelle STEP. STEP comme une marche, mais STEP pour santé au travail par l'écoute et la prévention. Parce que quand on veut maintenir dans les postes les personnes, quand on veut que l'environnement qu'on offre soit sain et sécurisant et que tout un chacun, le matin, quand il se lève, il a envie de se dire, j'ai envie d'aller travailler, il faut que l'environnement soit sain et sécurisant. Qu'on s'y retrouve, qu'on puisse y arriver, qu'on puisse y arriver en exposant son véritable moi et non pas se cacher derrière un costume ou à un moment donné, un masque et se dire, je vais au job, je veux faire un job et je veux. Donc un programme avec l'éducation de nos managers, la montée en niveau des managers, et avec un point central qui était l'écoute au quotidien. Et chaque instant qu'on passe avec qui que ce soit, l'écoute doit être au cœur de notre relation managériale. Avec des rendez-vous d'écoute, comment dire, des sessions débat, des rendez-vous d'écoute, on va à un moment donné poser tous les sujets qui peuvent exister, mais au-delà de ça, identifier l'ensemble des irritants qui peuvent exister pour les jeunes, les moins jeunes, pour que ces sujets-là, on puisse les traiter et qu'on puisse derrière mettre en place des plans d'action immédiats ou des plans d'action programmés quand il s'agit d'investissements beaucoup plus longs. Dans la formation professionnelle, on a un centre de formation. Cette formation, on l'a fait évoluer aussi en rajoutant toutes les thématiques concernant les soft skills, la gestion intergénérationnelle, par le digital, par le présentiel. À un moment donné, avoir ce socle-là. Et tout doucement, on a commencé à avoir des résultats. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est que ce jeune qui arrive, parfois accidenté de la vie, qui a laissé tomber ses études, qui n'a rien d'autre, et donc qui vient chez McDo en poussant la porte en se disant, je vais au moins avoir un job et avoir ce job alimentaire, mais tout d'un coup, il se retrouve dans un environnement où il y a des seniors qui le prennent en charge et ça devient un peu comme un second papa ou une seconde maman. Et c'est ce qui se passe en réalité dans nos restaurants. Vous franchissez la porte du resto, vous discutez un peu, vous voyez un peu les seniors ou les jeunes seniors, tout d'un coup, il y a une identification paternelle, maternelle qui se met en place, ou un grand frère, et tout d'un coup, il y a une espèce de tutorat ou mentorat qui se met en route. Et cette observation qu'on a fait, nous a permis de lancer via My Job Glasses, que vous devez connaître, un programme de mentorat où on a permis à nos équipes en restaurant de se porter volontaires et non plus faire du mentorat comme ils le faisaient au sein de nos restaurants, mais aussi profiter de leur expertise pour leur donner une vitrine et pour leur permettre aussi d'exposer ce savoir-faire acquis et le faire profiter à tous ces jeunes lycéens ou parfois étudiants via My Job Glasses de pouvoir à un moment donné présenter leur métier et ce que l'enseigne, le restaurant ou même le siège peut apporter en matière de technicité, en matière de compétences, en matière de savoir-faire transférable et transposable. Parallèlement à cela, on a lancé, parce que la loi Avenir Professionnel nous permettait, un CFA d'entreprise. Et dans ce CFA, notre priorité, ça a été de se dire que quand on prend ce maillage-là et quand on a ces 55% de primo-accédants à l'emploi qui arrivent, parfois avec aucun diplôme, et qui restent dans la durée, qui grandissent chez nous, et qui parfois sont devenus seniors, mais leur permettent à un moment donné de se dire que toutes ces compétences acquises, différemment de la VAE, mais je peux, par le biais de l'alternance, revenir sur le banc de l'école et arriver à obtenir un titre professionnel. Et les titres que nos enfants vont de niveau CAP au niveau Bac plus 2, et on a même aujourd'hui maintenant un Bac plus 4, donc en RH, en digital, mais me permettre de quelque part valoriser, certifier ces compétences et obtenir un titre qui me permettra derrière, soit de continuer à poursuivre chez McDonald's, soit de pouvoir rejoindre d'autres entreprises et continuer à évoluer, grandir professionnellement, et que ça puisse être un tremplin. Donc, aujourd'hui, on a 5 000 apprentis au sein de McDonald's. Sur ces 5 000 apprentis, quasiment 15% sont plutôt des seniors. Donc, on a plutôt, quand je parle de 5 000 apprentis, c'est annuel. Hein, on est maintenant dans un rythme annuel de 5 000 apprentis. On s'est fixé cet objectif-là et on vient de l'atteindre. L'année dernière, on a formé 3 500. Là, on est plutôt sur une base de 5 000. Et l'objectif, au fur et à mesure, c'est d'arriver à un moment donné à offrir des parcours certifiants à l'ensemble de nos équipes, jeunes, moins jeunes, et que ensemble, collectivement, ils puissent à un moment donné mieux vivre ensemble, mais au-delà de ça, arriver à créer ce collectif uni au service du business et au service de nos clients. Voilà, donc vous voyez un peu notre signature, notre marque employeur, comment on l'a fait évoluer. Hein. Pendant très longtemps, on n'avait que des images de personnes très jeunes dans nos affiches, comme dans nos campagnes publicitaires. On a complètement fait évoluer tout ça parce qu'aujourd'hui, et on se rend compte que non seulement il faut s'adapter, mais vous parlez de la France qui vieillit, je dirais la France se japonise. On a malheureusement, et on va avoir de plus en plus de mal, démographiquement parlant, à avoir des jeunes venir chez nous. Mais pas, le paradoxe qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui une explosion de candidats mineurs sur les 700 000 candidatures que nous recevons aujourd'hui. Ces parts de mineurs qui étaient aux alentours de 6% l'année dernière, ça a frôlé d'avoir des 20%. Et puis d'autre côté, on a un tarissement de candidats entre les 15 et 25 et une augmentation de candidatures venant des seniors. D'un côté et les seniors de l'autre. Et puis entre les deux, un blanc qui est en train de se créer.
Et moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est quand on a 81% de salariés qui ont moins de 30 ans, comment vous arrivez à maintenir un équilibre et pas donner l'impression aux moins jeunes d'être obligés de s'adapter à la majorité qui est constituée par des jeunes? Et après, la deuxième question concerne My Job Glasses. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est volontaire? Et pour encourager en fait vos salariés à y participer, est-ce que il y a un système de gratification, soit monétaire ou sous différentes formes?
Alors, premièrement, sur la première question, ça nous impose à un moment donné à être très vigilant dans l'organisation du temps de travail. Parce que ces 80% des jeunes ne doivent pas à un moment donné masquer le besoin des seniors à ce qu'on soit attentif par rapport à l'organisation du temps de travail. Donc notre système de planification, notre système SIRH, et puis, qu'on continue à toujours à faire évoluer, aide nos managers, nos directeurs dans cette planification. Ça, c'est le premier point. Et puis n'oublions pas que chez McDonald's, en majorité, il y a beaucoup de temps partiel et ces seniors qu'on a, sur la part des seniors, sur 100 seniors, je dirais qu'il y a plutôt 60% qui sont plutôt du temps partiel et 40% en temps complet. Donc, les seniors qui sont en temps partiel sont Ils viennent sur les périodes, soit période creuse, soit période de pointe. Et parfois, ils viennent aussi parce qu'on lance des activités telles que la lecture donc apprendre la lecture aux enfants ou faire de l'animation d'enfants. Et c'est plutôt souvent géré par ces seniors-là. Donc, les managers, les équipes, il y a une certaine sensibilité sur lesquelles on doit rester vigilant à la sensibilité qu'on doit avoir par rapport à cette part-là. Alors, par rapport à My Job Glasses, en fait, ça s'est fait vraiment plutôt naturellement parce que l'initiative est venue par rapport à ces écoutes. Je vous parlais de ces systèmes d'écoute de santé au travail par l'écoute et l'appréhension. Et c'est arrivé par les restaurants qui nous ont demandé si McDonald's, si l'enseigne ne pouvait pas lancer un partenariat avec My Job Glasses pour leur permettre, eux, sous le socle de l'enseigne, de quelque part, de faire profiter de leurs compétences via ce programme de mentorat parce qu'ils le faisaient déjà au sein de restaurants. Et quand ils sont mentors, bien entendu, le positionnement est différent. C'est plutôt des positionnements que ce soit au niveau de la grille conventionnelle ou même de responsabilité vont faire qu'ils ont une gratification qui est faite et c'est intégré dans leur système de bonus parce qu'au-delà du salaire de base, il y a des composantes de mentorat qui sont dans le système variable qui nous permet aussi quelque part de valoriser ça. Je vois une question concernant les mineurs. Quelles sont les raisons de ces 20% de mineurs? Eh bien, écoutez, le dernier sondage que nous avons fait, nous avons lancé une enquête et on a demandé à BVA de nous aider par rapport à ça. Ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on voit de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui sont obligées de pousser leurs enfants à trouver un job alimentaire pour aider la famille à boucler les fins de mois. C'est triste. C'est triste. Donc, là où, à un moment donné, c'est complexe de gérer les mineurs, hein, vous connaissez les contraintes sociales. L'année dernière, nous avons fait évoluer par la branche un accord sur les mineurs permettant plus de flexibilité et donc ouvrir beaucoup plus nos portes à ces mineurs parce qu'à un moment donné, quand on est vu la taille que nous représentons au niveau du territoire, on se doit aussi d'embrasser notre responsabilité sociale et sociétale et on ne peut pas juste fermer la porte au recrutement des mineurs parce que c'est complexe sur le plan organisationnel. Contraintes liées, impossibilité de faire travailler les jours fériés, impossibilité de faire travailler au-delà de certaines heures. Donc, on a plutôt regardé comment déverrouiller certaines choses sans pourtant les mettre à risque par rapport à l'équilibre qu'ils doivent trouver et leur permettre d'assurer suffisamment de temps pour réussir aussi leur scolarité. Donc, on a fait évoluer par l'accord de branche et donner plus de flexibilité, ce qui a permis d'augmenter la part des mineurs aujourd'hui au sein de nos restaurants. Mais la raison première, c'est une raison financière qui les pousse à venir chez nous. Je ne sais pas, je ne vois pas les autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous parlez de lead by example. Oui, c'est exactement ça. Quand ces seniors qui sont chez nous, qui sont parfois, ils ont 10, 12 ans d'expérience, parfois même plus, ou parfois qui nous rejoignent parce que là, on a eu une vague de recrutement sur ton territoire quand Monoprix a commencé à un moment donné à se restructurer. Ce qui nous a amené à recruter beaucoup de personnes venant de cette enseigne-là chez nous.
Merci beaucoup. Alors, vous avez l'un et l'autre parlé du mentorat, donc ce qui me donne l'occasion de vous indiquer que le MEDEF vient de signer une convention avec le collectif mentorat, puisque c'est le mois du mentorat, hein, et on est absolument convaincu que déployer le mentorat, changer d'échelle aussi, sortir peut-être essayer de l'élargir à d'autres entreprises que les entreprises qui y recourent déjà très largement, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment une manière de remettre de l'égalité des chances, de permettre de retravailler sur l'ascenseur social, d'ouvrir des perspectives pour des gens qui n'ont pas de réseau, quel qu'il soit, hein, puisqu'on peut faire du mentorat sur énormément de choses. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour vous le dire et pour vous indiquer qu'on va déployer un plan mentorat dans les territoires et donc on pourra revenir là aussi vers vous tous. Et My Job Glasses, c'est une start-up, peut-être Salim, vous pourriez en reparler, mais qu'on a rencontré, qui est vraiment extrêmement intéressante. Et peut-être, Mirka, tu veux en dire un mot?
Non, c'était juste pour vous indiquer que My Job Glasses, on les avait auditionnés au sein de notre commission. Et on peut vous envoyer la synthèse des débats qui indiquent leur marge de manœuvre et leur partenariat avec les entreprises, avec les différentes entreprises notamment. Voilà.
Alors, juste parce qu'on parle beaucoup de mentorat et quand on regarde de mentorat, on parle du transfert de l'expérience d'une personne vers quelqu'un de moins expérimenté. Nous, on commence à observer aussi, je ne sais pas si je peux parler de mentorat inversé, mais c'est aussi une forme de mentorat, c'est où là on voit des jeunes, des générations Z, alpha, qui sont des digital natives, qui sont en train de former nos seniors sur le digital et l'utilisation du smartphone. Et on commence à mettre en place des mentors jeunes pour accompagner des seniors sur ces sujets-là. Et là, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui. Ça prend un peu dans nos restaurants, parce que par la force des choses, que ce soit la formation ou autre, on va de plus en plus vers du blended learning. On a un LMS avec plus de 5 000 contenus dedans. Et on voit que ces seniors ont du mal à naviguer dedans, là où les jeunes sont très à l'aise. Et donc, franchisés sont en train d'expérimenter ce genre de mentorat inversé avec, d'un côté, le senior qui transmet ses compétences ou son savoir-être, parfois même sur la partie managériale. Et puis, le jeune, donc cette jeune génération Z, Digital Natives, qui accompagne ce senior à naviguer dans ce monde digital qui aujourd'hui est incontournable.
C'est une manière aussi de remettre du lien entre ces différentes générations, d'ailleurs, d'une autre façon. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant.
Alors, sur le reverse mentoring, oui, c'est quelque chose qu'on pratique et ça rejoint l'idée que quand deux générations, plusieurs générations vivent ensemble, finalement, les stéréotypes finissent par disparaître et que chacun peut apporter à l'autre. Et on a également des expériences avec My Job Glasses. Alors, là, on cite une start-up qui fait ça très très bien, mais je crois que de manière générale, la possibilité de, pour les seniors, mais pas uniquement, de s'ouvrir à l'extérieur, de présenter ce qu'ils font, c'est pareil, ça contribue à faire parler des mondes qui se parlent peu, par exemple avec les jeunes en formation, à l'école, c'est toujours très riche. Et en général, les deux parties, ils trouvent matière à satisfaction, à reconnaissance en disant, bah, tiens, ce que je raconte, ça intéresse, donc ça vaut quelque chose. Évidemment, c'est un outil de découverte pour les plus jeunes du monde de l'entreprise que malheureusement, on peut le regretter, ils connaissent pas toujours très bien. Donc tout ce qui, quelle que soit la forme, le format ou l'entreprise par laquelle ou la start-up par laquelle on fait ça, toutes ces situations de rencontre sont en général bénéfiques et bien vécues par les deux parties. On pourrait citer également les interventions dans les classes au collège, par exemple, quelque chose qu'en général est très apprécié.
Vous parlez des 100 000 entrepreneurs, des 100 000 entrepreneurs, parce qu'on pousse nos franchisés à aussi aller dedans et d'aller présenter, d'aller donner le goût de l'entrepreneuriat à ces jeunes qui sont dans ces classes. Et parfois, ça permet de créer des vocations. Et puis, quand on parle de mentorat et quand on donne cette vitrine-là, c'est aussi une marque de reconnaissance. Ça permet aussi de montrer que, au-delà de l'interne où les compétences, le savoir-faire, tout ce qui est acquis est bien reconnu, ça devient un ambassadeur quelque part de la marque parce que, et à ce titre, c'est plutôt gratifiant aussi, juste sur le plan humain et personnel.
Super, merci beaucoup. Il reste, allez, 1 minute 30. J'ai une dernière petite question, peut-être. Si vous deviez donner un conseil, une action à entreprendre en premier à une entreprise qui n'a pas la taille de McDonald's France, qui n'a pas la taille de Schneider Electric, quel serait ce conseil?
Si vous permettez, je vais commencer, comme ça je vous laisserai terminer le bout de la fin. Vous avez démarré. Je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer l'éducation des managers et l'éducation des équipes. Si on veut que l'intégration se fasse correctement, faut passer du temps et vraiment bien mesurer cela. Parce que c'est comme tout, hein. C'est pas parce quand on n'a pas le même dictionnaire, les erreurs qu'on va faire ont une incidence sur le vécu du collaborateur, le vécu de ce senior, et cette intégration qui, quand elle se passe mal, souvent, ben, ça va fermer les équipes en disant c'est un échec, donc ça sert à rien. Et on peut très vite baisser les bras. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien éduquer ses équipes, les équipes et les amener à intégrer cela. Et puis, là, pas faire de distinction en réalité entre senior et jeune, parce qu'on a cinq doigts dans une main, et cinq doigts sont différents, mais regardez tout ce qu'on peut faire avec ces cinq doigts réunis.
Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Merci à tous pour vos interventions. Merci à Michael et Salim. Tous, merci.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.